Vous avez un message important.
On est vendredi.
Il est 11h.
Et c'est l'heure de...
Message important.
Des sujets qui nous semblent importants, qui nous ressemblent,
qui méritent d'être mis en valeur.
Des débats.
Des explications.
C'est ce que nous avons à offrir.
Et ça se passe maintenant
sur Studio Z.
Salut, ça va ?
Bah oui, ça va, et toi ?
Bah oui, enfin bon, t'as vu ce qui s'est passé au Liban ?
Oui, je suis au courant. Cette explosion a fait un désastre. Les pauvres gens, ils ont tout perdu. Ça fait vraiment beaucoup de peine pour eux.
Ouais, leurs maisons, leurs animaux... Mais bon, tu sais qu'il y a des associations sur place qui ont fait en sorte de retrouver les animaux qui étaient coincés en dessous de maisons ou quoi que ce soit, et après, ils les ont redonnés aux propriétaires.
Ah, c'est vraiment bien parce que quand on a tout perdu, retrouver son animal de compagnie, c'est pas grand-chose, mais ça va être un bonheur immense.
Ouais, j'ai vu des vidéos, ça respirait le bonheur quand même, malgré tout.
Ça. Mais tu sais qu'en France, ils font ça également, ça s'appelle la SPA.
Ah oui, la Société Protectrice des Animaux. Enfin bon, c'est dans un autre contexte quand même.
Oui, enfin, c'est vrai, par rapport aux circonstances. D'ailleurs, je me demande quand ça a été créé. Tu penses que ça a été créé quand, toi ?
Ah, je sais pas trop, je pense que... C'est après la Seconde Guerre mondiale, pour moi, ça c'est sûr. Parce que c'est là où on a pris conscience de beaucoup de choses et où il y a eu beaucoup d'associations. Mais je pense que ça a mis encore un peu de temps, je dirais, dans les années 60.
Ah oui, tu penses aussi tard que ça ? Moi, j'aurais plutôt pensé après la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire en 1945. Pas au-dessus, parce que ça me paraît un peu trop tard.
Bah attends, je vais chercher, hein. Oula, on était loin !
Fais-moi voir. Oh, ah oui, un siècle avant la Seconde Guerre mondiale, j'aurais jamais cru. N'empêche, j'étais quand même plus proche que toi.
Oh bah ça va, hein, t'avais quand même un sac de retard aussi, hein.
Oui, c'est vrai. Mais d'un côté, ça m'étonne parce que c'est assez tôt, tu vois. Je pensais qu'on n'était pas concerné par la cause animalière avant l'écart. Mais d'un côté, c'est assez logique, puisque ces animaux avaient déjà une grande importance dans les hommes.
Mais en même temps, je pense pas que les gens à cette époque-là, ils avaient des chiens, des chats, tout ça comme animaux de compagnie.
Non, en fait, je t'explique, moi j'ai entendu l'histoire. C'est Étienne Parisset, il était en ville avec un ami et il a été témoin d'une violence commise par un cocher sur un animal. Et après cela, en 1945, il a créé la SPA dans le but de protéger les animaux et plus particulièrement les chevaux pour le coup.
Mais oui, en fait, je connais cette histoire, mais c'était il y a très longtemps. Et tu sais que la première loi qui protège les animaux a été créée 5 ans plus tard. Et même si elle concernait que les maltraitances en public, c'était déjà un pas vers la protection des animaux, tu vois.
Ouais, c'est vrai. C'est toujours mieux que rien. Et toi, tu sais que le premier refuge de la SPA date de 1903 et le premier dispensaire de 1945 ?
Ouais, mais alors attends, parce que je vais m'embrouiller, je le sens. Un dispensaire, c'est bien un endroit où les gens qui n'ont pas trop les moyens viennent faire leur sang pour leurs animaux, donc les stérilisations, les vaccins, etc. Mais tout ça, c'est gratuit. Alors qu'un refuge, c'est un endroit où les animaux qui ont été abandonnés ou maltraités sont accueillis, ils sont soignés, et ensuite, on essaie de leur trouver une famille.
Ouais, c'est tout à fait ça. Et tu connais la charte animale ?
Tu parles bien de la charte de 1976 ?
Oui, celle-ci.
Ah, je me souviens que dans celle-là, on dit que l'animal est un être sensible. Je crois que c'est la première fois qu'on le dit.
Oui, mais pas que. Dans cette charte, on interdit les abus et la violence. Elle a été complétée par la Déclaration des droits des animaux.
Et à partir de mars 1994, la loi punit les crimes animaliers par des amendes, mais aussi par de la prison.
Oh, ah ouais, la prison. En même temps, je pense que c'est ce qu'il fallait. Sinon, les gens, ils allaient continuer à faire ça, alors qu'en soi, c'était comme des êtres sensibles.
Bah ouais, quand même.
C'est quand même des êtres humains.
Enfin, sensibles.
Sensibles, pour le coup, c'est vrai. Mais je suis vraiment quand même admirative du travail fourni par les refuges et même la SPA. Enfin,
ah ouais, moi aussi, franchement, c'est un univers qui me semble un peu compliqué à gérer. Je pense qu'il y a beaucoup de sensations, d'émotions, mais en même temps, on a besoin de tous ces gens qui s'occupent de ces refuges et de ces animaux, en fait.
Ouais, c'est vrai.
Et si on allait découvrir un peu plus cet univers ?
Oh, oui, trop bonne idée. Il n'y en a pas trop loin à Sassé. On pourrait faire un tour si ça te chante.
Bah ouais, allons-y. Direction Sassé.
Let's go. J'aime trop dire ça.
Alors, donc Elisabeth Chanin, je suis présidente depuis fin février. Et puis, ben, je suis enseignante de profession. Et puis là, avec le confinement, avec les vacances, j'ai pu quand même venir à peu près 3 fois par semaine au refuge pour gérer l'administratif, gérer les adoptions, gérer un peu beaucoup de choses. Et heureusement que Christelle, la vice-présidente, fait beaucoup de choses aussi, ce qui permet de soulager énormément de les tâches administratives.
Bah bonjour.
Donc bonjour, je suis Christelle Dutin, je suis donc la vice-présidente du refuge depuis avril de cette année. Je suis également bénévole depuis 5 ans au refuge. Donc moi je viens plusieurs fois par semaine et je m'occupe essentiellement des travaux, également du nettoyage des box le matin quand j'ai l'occasion de venir, de l'administratif, puis d'un petit peu avec Elisabeth de toutes les choses qui sont annexes.
Et des refuge. Questionnaires d'adoption.
Des questionnaires d'adoption.
Qui prend beaucoup de temps.
Voilà.
Comment vous êtes devenue présidente et vous, comment vous êtes devenue vice-présidente?
Par hasard. C'est-à-dire qu'à un moment donné, notre ancienne présidente ayant des soucis de santé, il a fallu la remplacer. Hein. Donc moi, je faisais déjà partie du conseil d'administration parce que, en fait, ça faisait 5 ans que j'étais famille d'accueil ici. Donc j'ai commencé comme famille d'accueil, mais sans vouloir venir. Je ne voulais pas, donc on m'apportait les chiens, j'ai une ferme, on m'apportait les chiens. Des chiens qui étaient ou au bout du rouleau ou qui étaient inadoptables. Mais je me suis dit, jamais j'irai dans un refuge, c'est trop triste, ils sont derrière les barreaux, enfin ce que disent la plupart des gens. Et un jour, il a vraiment fallu que je vienne pour remplir des papiers administratifs. Et j'ai visité, je me suis dit qu'en fait c'était un endroit joyeux, très joyeux. D'abord parce que les chiens n'étaient pas malheureux du tout. Et les soigneurs faisaient en sorte que les chiens soient heureux. En plus des bénévoles, parce que ça, les bénévoles, il faut en parler, c'est vraiment la cheville ouvrière d'une association. Sans les bénévoles, on ne peut rien faire. Hein.
Ouais.
On ne peut rien faire. Et donc, j'ai commencé à venir nettoyer les box, comme certains bénévoles. On a des bénévoles qui viennent pour l'entretien, et on a des bénévoles qui viennent pour les promenades. Donc, c'est aussi important l'un que l'autre. Donc j'ai commencé à nettoyer les box le matin. C'est là que je me suis rendu compte de tous les soucis que les soigneurs avaient au niveau les tuyaux qui fuyaient, l'organisation. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à m'en mêler sérieusement. Je suis donc rentrée au conseil d'administration. J'ai été secrétaire adjointe et puis vice-présidente. Et puis voilà, donc c'était logique que je prenne de toute façon la présidence. Après que je sois élue, ça c'était autre chose. Mais que je remplace la présidente pendant un temps plus ou moins long, c'était tout à fait dans la logique des choses.
D'accord. Et justement, est-ce que vous pouvez parler de votre début donc, comme famille d'accueil? Comment ça s'est passé? Vous vous êtes dit un jour
Pas du tout. Vraiment pas du tout. Un jour, il y avait une bénévole qui me parlait sans arrêt d'un chien qui s'appelait Grisby et qui passait complètement inaperçu parce qu'il était au fond de son box, il ne sortait pas. Or, les gens, quand ils viennent adopter, ils aiment bien que le chien ait les yeux qui pleurent un petit peu. Par parenthèse, un chien, contrairement au loup, a des muscles autour des yeux qui fait qu'il a un regard de chien battu, ce qui ne reflète absolument pas ce qu'il pense. Donc, le regard de chien battu, le chien qui est tout content de voir quelqu'un comme s'il le connaissait depuis très longtemps, les gens qui nous disent « ça y est, c'est le coup de cœur ». Bon, on les dissuade pas, mais enfin, bon, le chien fait ça à tout le monde. Hein. Et puis, il y a des chiens, vous verrez quand vous ferez le tour, il y a des chiens qui ne manifestent rien, qui vous regardent, blasés plus ou moins, et en fait, bon, ils veulent qu'on leur fiche la paix, quoi. Et donc, ce chien, ça faisait 7 ans qu'il était là, personne ne s'y intéressait, il allait mourir dans son box. Et moi, j'ai pensé, effectivement, que pour un soigneur qui s'en occupait depuis 7 ans, le jour où il ne verrait plus dans le box, c'est qu'il était mort. Donc, au niveau psychologique, c'était moche. Donc, j'ai pris ce chien. Ce chien est arrivé un soir à 17h, et il a commencé à vouloir se battre avec tous mes chiens. J'avais 2-3 chiens à l'époque. Donc j'ai dit à la personne, non, c'est pas possible. Hein. J'ai déjà un chien très compliqué, un malinois, très compliqué à gérer. Un chien qui se bat avec tout le monde, c'est pas possible. Alors elle m'a dit, oui, mais il est 17h, le refuge ferme à 17h30, je peux pas le ramener. Bon, j'ai un box de libre, un box à chevaux de libre, il va passer la nuit là. Il a passé la nuit là et le lendemain, adorable. Absolument adorable. Je sais pas ce qui s'était passé. Et ce chien, malheureusement, a vécu 2 mois, il est mort d'une crise cardiaque. C'était trop pour lui. 14 hectares de liberté, les copains, les promenades en liberté, tout c'était trop. Mais vraiment, de la veille au lendemain, je n'ai eu aucun problème avec lui. Aucun. Il me suivait au pied, il était adorable. Donc après, j'en ai eu un autre, ça faisait 9 ans qu'il était là, lui. D'accord. Alors c'était un chien qui était fugueur, c'était un chien qui était vraiment très 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 compliqué. Donc ben, il a vécu quand même pas très longtemps, parce qu'ils étaient vieux forcément, hein. Mais il a vécu quand même heureux. Et puis après, ça n'a pas arrêté, par trois ouais. carrément, des chiens vraiment, une bergère allemande, alors rêve pour ceux qui l'ont connue, extraordinaire. Elle est arrivée un mardi soir, et à la balade du mercredi matin, elle me suivait au pied aussi. Et elle s'était laissée mourir, donc je l'ai eue vraiment dans un état de cachexie, c'est-à-dire de maigreur, elle se laissait mourir. Un chien, quand il ne peut plus, en fait, il commence à ne plus sortir de son box, à ne plus s'alimenter. Et quand un chien ne s'alimente plus, vous savez que c'est la fin. Et cette chienne en avait assez, et elle a vécu 6 mois vraiment bien, 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 jusqu'au jour où elle était vraiment très âgée. Elle m'a regardée, et puis elle ne voulait plus. Donc elle ne veut plus, bon, d'accord, mais je t'emmène. Au lieu de mourir toute seule dans ton box, ben, tu vas être endormie par le vétérinaire. C'est plus humain, c'est plus empathique, c'est plus... Non, c'est normal. Donc voilà. Et en famille d'accueil, je n'ai quasiment que des chiens qui n'en ont plus que pour quelques mois.
D'accord.
Mais c'est un plaisir. Pas un plaisir de les emmener chez le véto, mais un plaisir pour tout le monde de savoir que ces chiens vont finir, pas au paradis, parce que bon, faut pas exagérer, c'est une ferme, hein, mais avec des copains, avec de l'espace, avec de la nourriture, et puis ben, avec des câlins quand s'ils volent. Hein.
Oui.
Donc ça c'est. Alors j'en ai récupéré qui n'étaient pas vieux du tout, d'ailleurs elles se portent très très bien, deux Saint-Hubert de 50 kilos. Alors eux étaient inadoptables, parce que d'abord ils étaient deux, et puis parce qu'ils faisaient 50 kilos. Hein.
Ils étaient inséparables, on pouvait...
On a pensé qu'ils étaient...
Et la sœur,
bah, Gaët et Gaspard, oui. Ouais. Non, en fait ça doit être la mère et le fils, parce que le fils est d'un dynamisme par rapport à la mère redoutable. Mmh. Et donc ces chiens appartenaient à un monsieur qui a été très longtemps malade, et ces chiens ont vécu sur le lit du monsieur pendant un certain temps. Ils sont arrivés ici, donc arrivés ici, ben c'est sur de l'herbe, c'est dans le froid, c'est tout ça. Et ben, ils n'étaient quasiment pas promenés, parce que 50 kilos à promener, c'est difficile. Et donc, ils allaient dans le parc de détente, hein. Ils étaient bien, mais ils n'étaient pas adoptables. Donc ils sont arrivés tous les deux à la ferme. Donc là, bon, bah, ça se passait très très bien. Et il y en a un, le fils, qui a été adopté à partir de la ferme. Et ça, je me souviendrai toujours. Je l'avais préparé, j'avais une sorte de pièce que je voulais transformer en gîte, mais qui ne sera jamais un gîte. Et je leur avais mis un lit avec un matelas. Et quand les chiens, les deux Saint-Hubert, ont vu un lit, mais vraiment, vous savez, comme dans Tex Avery, les yeux, et ils n'ont pas quitté leur lit pendant 2 jours. Ils avaient la porte ouverte. Ils descendaient manger, et tout de suite, ils remontaient sur leur lit. Donc c'est des belles histoires, quoi.
Oui.
Et puis bon, après, ben, naturellement, comme ils savaient qu'ils retrouvaient leur lit, il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà, et puis tous les chiens qui sont arrivés avaient une histoire. Ont une histoire. Ça s'est toujours très très bien passé, même avec des chiens qui étaient difficiles, parce que mes chiens sont bien éduqués, ceux qui sont à demeure à la ferme sont bien éduqués, et puis ils sont très tolérants. Donc un chien, quand il grogne ou qu'il veut se battre, ben, quand il est tout seul et que les autres le regardent, ben, ça s'arrête là en général. Hein. Mm. Donc voilà.
C'est vous qui avez éduqué votre chien ?
Oui.
Vos chiens ?
Oui. Et du coup, votre vision des choses n'a pas changé en devenant présidente ?
J'ai eu moins le temps de faire les box, j'ai eu moins le temps de... J'ai toujours des chiens en famille d'accueil. Là, j'en ai quand même 1, 2, 3, 4. Mais des chiens... j'ai toujours la Saint-Hubert, parce que je me suis dit, à 10 ans, elle a déjà atteint la date de péremption depuis un bout de temps. Et elle va très, très bien. J'ai un malinois aveugle et épileptique.
Ah oui.
Donc lui, ben, je l'ai pris parce qu'en fait, lui aussi, c'est une sacrée histoire. Il a été trouvé dans un fossé, 42 de fièvre, épileptique. Il a été pris par une clinique du coin. Et bon, il aurait dû être euthanasié, hein, parce que 42 de fièvre, le cerveau, il en prend un coup. Hein. Et ils ont essayé de le soigner. Ils ont réussi à le sauver plus ou moins. Mais le problème, c'est que c'était en été, il y a 2 ans, et il fallait qu'il libère... La SPA m'a demandé, en venant de Romorantin, d'aller le chercher. Donc je suis allée le chercher, puis quand j'ai vu ce machin qui ne marchait pas, il fallait le soutenir pour qu'il marche, qu'il ne voyait pas, qu'il ne marchait pas, je me suis dit, il va se retrouver dans un box avec du carrelage, mais personne ne va s'occuper de lui. Donc en fait, il n'a pas quitté la voiture, hein. Je l'ai ramené à la maison. Et là, j'ai un réseau hein, aussi qui est pas mal du tout sur Romorantin, qui s'est mobilisé. Il y a quelqu'un qui, tous les soirs, le mettait en piscine pour qu'il ait de la motricité. Et pendant tout le mois de juillet, tout le mois d'août, il a fait de la piscine tous les soirs, et il a réussi à marcher, un peu comme un garde-mobile italien, vous savez, avec les pattes qui se soulèvent. Il marche très bien, enfin, très bien, il marche, il galope très rapidement, il vit, mais bon, il est resté à la ferme, parce que c'est pareil, hein, un chien qui est... Et puis alors, bon, c'est un malinois, donc il a toutes les caractéristiques du malinois de travail. C'est-à-dire, il est assez nerveux, il a besoin de s'occuper, il a besoin... Donc là, bon, bah, c'est bon, à la ferme, il a... Mais chez un particulier, je doute fort que ça ait marché. Et puis, j'ai une petite chienne qui a été trouvée aussi, au moment du confinement, dans un état très, très mauvais état. Très mauvais état. Et là, pendant le confinement, je me suis dit, puis on en a parlé avec les soigneurs, elle n'allait pas être éduquée qu'un chiot, en fait. À 2 mois, il doit être éduqué. Parce qu'à 5 mois, c'est l'adolescence. Et s'il n'y a rien eu entre 2 mois et 5 mois, c'est fini. C'est fini. Après, on peut toujours compenser, mais on ne peut pas rééduquer. Donc ce chiot, qui était quand même assez actif, même en mauvaise santé, il est arrivé donc à la ferme. J'avais vraiment envie, la ferme intention de l'éduquer et puis qu'il reparte. Hein. Et il fallait qu'il reparte, hein, parce que j'en avais déjà 6 à l'époque. Alors à l'époque, j'en ai 7 maintenant. Donc il fallait absolument qu'il reparte. Et puis, donc il a été éduqué avec d'autres chiens, socialisé avec d'autres chiens, éduqué avec des humains. Il m'a servi beaucoup au centre de loisirs, pour les chiots qui arrivaient. Comme elle est très bien, comme elle est équilibrée, elle m'a vraiment servi de chiot régulateur pour d'autres chiots qui arrivaient et qui étaient un peu compliqués. Et le problème, c'est qu'elle a rencontré mon mari. Et bah, disons, ça a été vraiment le coup de foudre entre les deux, quoi.
Vous accueillez que des chiens, des chats
Éventuellement des lapins, de temps en temps, mais très rarement.
Du furet,
oui. Vraiment,
des rats. Un jour, on a une caisse avec 10 rats dedans.
Et vous avez vendu?
Ben on ne
les...
vend pas.
Ah, non, les
adopter, alors là, ça, c'est la gaffe.
Ça, c'est pas
on
bien.
Ne vend pas dans un refuge.
Alors, c'est...
On fait adopter.
Adopter, ouais.
Bon, sachant que quand un chien arrive, en général, il est en mauvais état. Il nous coûte très, très, très cher au niveau des frais vétérinaires. Si, par bonheur, il est en bon état, il y a quand même l'identification, il y a les vaccinations, il y a beaucoup de choses. Et en général, ils sont en mauvais état, ce qui veut dire des prises de sang, des radios, et puis des opérations, souvent.
Voilà, tout comme le chien qui est là, qui a des glandes aux yeux, qu'il va falloir faire opérer.
Et ça coûte vraiment plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Et quand on fait adopter un chien, c'est quoi, de l'ordre de 150 euros?
Ouais, à peu près 170 euros. Ouais.
C'est vraiment pas le prix de l'identification ni des vaccins. Hein.
C'est donc pour ça que, genre, ici, on ne vend pas les chiens, on les fait adopter,
oui.
Par rapport aux particuliers?
Oui. Et alors, par rapport aux particuliers, normalement, la loi est passée, comme quoi un particulier qui n'avait pas le droit de vendre des chiens, parce que il faut un registre du commerce, puisque c'est considéré comme un acte de commerce. Donc ils ont détourné un peu la loi, et ça c'est dommage que sur le bon coin ils ne vérifient pas. Ils disent que le chien est à donner contre remboursement frais vétérinaires. Et alors là, c'est là que ça douille, hein, parce que les frais vétérinaires qu'ils demandent ne sont absolument pas justifiés, parce que le chien n'est pas identifié, n'est pas vacciné la plupart du temps. Et comme ils sont obligés de mettre un numéro de puce pour passer une annonce sur le bon coin, il faut un numéro de puce. Vous vous apercevez, comme moi je me suis aperçu dernièrement, que quelqu'un qui a acheté comme ça un épagneul breton, il avait le numéro de puce d'un vieux labrador de 9 ans. Parce que la personne avait mis le numéro de puce de son chien pour pouvoir passer l'annonce, et après, quand il a vu la personne, de vive voix, il lui a dit non, il n'est pas identifié. Mais ça, c'est au bon coin de vérifier.
Alors, comment vous trouvez l'argent, justement, pour venir en aide à tous ces animaux?
Ben d'ailleurs, on va vous demander, hein, avant de partir.
Hein. Alors, c'est des dons, des legs, et puis ben, l'aide...
Et puis des cotisations.
Voilà. Et des cotisations annuelles qu'on demande à nos bienfaiteurs.
Oui, voilà. Oui.
Et puis, on fait des collectes alimentaires également, aussi.
Et puis les plateformes de magasins qui récupèrent des croquettes souvent périmées ou un peu abîmés, les sacs sont un peu abîmés, donc pas vendables. Et donc là, maintenant, ça marche quand même bien, ça. Ils nous appellent. Et là, moi, je viens de faire un ramassage comme ça à Romorantin. Nose, si on peut le citer. Mais il y a Auchan, il y a vraiment d'autres. Il y a Gamme Vert, il y a plein de... Et c'était des croquettes d'excellente qualité. Vraiment d'excellente qualité. Alors eux, ce qui les intéresse, bon, c'est vrai qu'ils préfèrent les donner à des associations, parce que sinon, il faut les détruire devant huissier, ce qui leur coûte très cher. Mais quand même, bon, c'est sympa de penser à nous, quoi. C'est sympa.
Est-ce que justement le fait que la SPA, c'est quand même une association qui est très connue dans la France entière, ça aide
On n'est pas on fait pas partie de la SPA nationale, nous.
D'accord.
On est une association...
On dépend de la Confédération de Lyon, qui n'a rien à voir avec la SPA.
C'est-à-dire que nous, on n'a aucune aide financière.
D'accord, mais vous avez le nom.
Et non,
le
nom non même plus.
Alors, on est en train justement de... En fait, nous, c'est Refuge, effectivement, SPA 41. On est en train de changer la dénomination pour que ce soit Refuge de Sacé, que les gens ne fassent pas la même gamme avec la SPA nationale.
D'accord.
Parce que nous, on n'a pas du tout les mêmes aides que les SPA.
Bah, d'ailleurs, vous avez vu, sur C8, il y a eu des émissions sur Mon Plaisir, c'est ça, ou Moret, ou tout ça. C'est très bien. Seulement, là, on a des cinéastes qui sont venus faire un documentaire ici, qui passera, je crois, en octobre.
Tandem Images.
Oui, sur FR3. Moi, j'aurais dit, écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais faut filmer les soigneurs le matin qui arrivent et qui ramassent le vomi et la merde. Et les crottes de chien. Parce que là, c'est pas possible de faire des émissions où tout est beau, où le gamin de 4 ans serre dans ses bras un chien qu'il connaissait pas 10 minutes avant, alors que là, c'est dangereux au possible. C'est vraiment dangereux au possible. Donc, ils véhiculent avec des émissions comme ça une image de bisounours ou autre qui n'est pas du tout la réalité. Et ils ont tort, parce que les gens pensent que c'est ça. Et là, quand ils me disent est-ce que le petit peut caresser le chien, ben non, il ne peut pas. Il ne le connaît pas, il ne peut pas. Attendez un peu, attendez de voir comment est le chien. Si, imaginez qu'un chien voit un gamin se précipiter sur lui. D'abord, un chien ne reconnaît pas forcément un enfant comme étant un être humain. C'est un être de petite taille qui a une voix souvent aiguë, qui se déplace mal, puisque quand ils ont moins de 6 ans, ils se déplacent mal. Pour eux, c'est autant un adulte, ils le reconnaissent bien, qu'un enfant, ils ne le reconnaissent pas. Donc, il va s'en méfier. Et s'il s'en méfie, qu'est-ce qu'il fait? Il a des dents. Hein. Surtout si l'enfant n'est pas éduqué comme... donc nous on préfère franchement quand il y a une famille qui ait eu déjà des chiens avant, hein. Parce que là je vous dis, on a les accidents, c'est à cause de ça, uniquement à cause de ça qu'on n'a pas respecté le chien dans ce dont il a besoin.
D'accord, mais du coup vous avez que des bénévoles ou vous avez quelques salariés?
Non, on a 12
salariés.
D'accord.
Et des bénévoles
On en a pas mal quand même, mais ils viennent pas tout le temps. Ouais, ils viennent une
à tour
deux
de
fois
rôle,
par semaine.
Certains préfèrent venir le matin pour le nettoyage des box, d'autres viennent tous les samedis après-midi ou tous les lundis avec les petites, les petits rituels, des balades, du parc, les chiens qui préfèrent.
Il y en a
sortir.
Qui sont là pour câliner, puis il y en a qui sont là vraiment pour aider, quoi.
Et comment on devient bénévole, en fait?
Mais vous allez remplir un questionnaire tout à l'heure, n'est-ce pas? Et puis...
Il suffit juste de s'inscrire au secrétariat et puis d'être encadré les deux premières fois avec un soigneur ou un autre bénévole pour bien comprendre le fonctionnement des chiens, par quel endroit passer, quel chien, comment les appréhender, et puis voilà.
D'accord. Et justement, avec le Covid-19, le confinement, tout ça, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des baisses de dons? Est-ce qu'il y a eu plus d'animaux qui sont venus? Comment ça s'est passé?
Alors, on n'a pas pu faire notre assemblée générale, ce qui a été un peu catastrophique, parce que c'est là que les gens adhèrent. On n'a pas pu faire de collecte non plus, puisqu'il y avait plus... Donc là, on a un peu tiré, un peu peiné. En revanche, on n'a pas eu beaucoup d'abandon, parce que comme les gens ne sortaient pas, ceux qui avaient la chance d'avoir un chien, ils le gardaient, ce qui n'a pas été le cas après le confinement. Et on n'avait pas non plus beaucoup de fourrières, parce que pour les mêmes raisons. Donc, et les soigneurs se sont vraiment bien occupés des chiens. Ils avaient beaucoup plus de temps, puisqu'ils n'avaient pas de visiteurs l'après-midi. Donc, dans un sens, ça a été bien pour les chiens. et mais bien pour les soigneurs aussi, parce qu'ils avaient plus de temps, mais alors financièrement, ça a été une catastrophe. Hein. Une catastrophe.
Et donc, on a entendu parler des dons, enfin des adoptions par Internet. Est-ce que ça a été bénéfique pour l'association ou pas? Ou est-ce que ça va durer dans le temps ou...
Ah, c'est pas des adoptions par Internet, c'est en fait... On a mis en place un questionnaire pour qu'on puisse maintenant prendre uniquement les adoptants sur rendez-vous pour pouvoir mieux cadrer l'adoption. Et en fait, les personnes vont sur le site internet ou notre page Facebook, remplissent le questionnaire, nous le renvoient. Et le questionnaire est donné le midi aux soigneurs pour pouvoir voir quel chien pourrait correspondre le mieux à l'environnement.
Et pour qu'ils en discutent en équipe aussi, voilà. Parce que tout le monde ne connaît pas tous les chiens, on n'a pas le même ressenti sur les chiens.
Et justement, comment ça se passe pour adopter un chien? Qu'est-ce que vous allez dire entre vous? Est-ce qu'on donne ce chien à cette famille? Et comment ça...
Alors, c'est les conditions, uniquement les conditions d'accueil, le temps que les gens ont à lui consacrer. Quelqu'un qui habite en appart, qui bosse 8 heures ou 10 heures par jour, qui veut... parce qu'il a choisi un chien plutôt dynamique, ce ne sera pas possible. Mais on ne lui dira pas non tout de suite. On lui dira simplement, bon, vous venez, celui-là, on ne vous le conseille pas pour telle et telle raison. Et si la personne insiste, on lui dit, écoutez, vous ne correspondez pas à ce chien. Parce que nous, la priorité, c'est que les personnes correspondent au chien. Pas forcément que le chien corresponde aux personnes. C'est le bien-être du chien. Parce que si c'est pour retrouver le chien dans un mois, dans trois semaines, et qu'il soit réabandonné, il n'y a aucun intérêt, hein. Et on privilégie beaucoup quand même les adoptions locales pour pouvoir justement faire des suivis d'adoption. Voilà.
Du coup, c'est vraiment... On ne peut pas adopter n'importe quel animal comme ça en venant à la... Enfin, parce qu'on a l'impression justement avec les reportages, tout ça, qu'on vient, qu'on trouve un
c'était
un
le
chien,
cas avant le confinement.
Qu'on prend dans les bras.
Alors, enfin, pas ici, hein, mais avant le confinement, vous aviez des touristes. Alors, les touristes, ils venaient en masse, ils allaient visiter. Alors, c'était la balade du samedi soir, hein, du samedi après-midi. Ils visitaient, les gamins énervaient les chiens. On a même vu des gens devant les chiens catégorisés, alors qu'on a des panneaux, hein, ne pas toucher chien mordeur ou tout ça. Pas pour les chiens catégorisés. Les chiens catégorisés ne sont pas des chiens mordeurs. Hein, mais on a d'autres chiens qui ne supportent pas. Donc, il y avait des panneaux. Les gens ne lisaient pas les panneaux. Et ils excitaient les chiens. Donc, le chien, bah, forcément. Et puis, il s'amusait beaucoup, tout le monde. Il disait, bah, tiens, celui-là, il me plaît, il est beau. Donc, le soigneur était obligé... de venir, de prendre du temps avec la personne. Ça, c'était pas une heure comme actuellement, hein, parce que maintenant, vraiment, ils ont une heure montre en main pour s'occuper des gens. Hein. C'était une demi-heure, au détriment d'autres personnes qui étaient plus sérieuses. Et au bout d'une demi-heure, les gens disaient, ah bon, ben écoutez, c'était bien. Mais non, je ne voulais pas adopter. Non, je voulais voir, oui, peut-être un jour. Donc, voyez, la perte de temps des soigneurs, l'énervement des chiens... c'était absolument impossible. Ce confinement a eu vraiment du bon au niveau des questionnaires, hein, des questionnaires, parce que là, on cible le genre de chien qui correspond aux gens, et quand on voit que vraiment, on n'a pas de chien à leur proposer, d'abord, on les prévient. Écoutez, on leur donne rendez-vous aussi. Hein, ils ne viennent pas l'après-midi. Hein, on leur donne rendez-vous. Voilà, écoutez, le chien que vous souhaiteriez n'est pas disponible pour telle et telle raison. On vous conseille d'autres chiens. Non, je veux celui-là. Eh bien, écoutez, on vous rappellera quand il sera disponible, ou on vous rappellera plus tard, ou on ne vous rappellera pas. Hein. Mais il y a beaucoup de gens quand même qui sont prêts à attendre quelques temps qu'on ait le chien vraiment qui les correspond. Et puis, il y a des gens qui, on reçoit le questionnaire, et le lendemain, ils sont allés ailleurs chercher un chien. Hein. Ils voulaient le chien tout de suite. Donc voilà, hein, vous savez, c'est un peu quand même l'objet qu'on prend et qui doit être livré clé en main. Hein. Et quand ça ne va pas, ben, on rend. On rend ou...
Grâce à ce questionnaire, ça vous a permis bah, d'avoir des annonces plus sérieuses par rapport aux...
Évidemment. Parce qu'il n'y a plus les touristes qui viennent. Il y a des gens qui peuvent venir sans réservation, puisque maintenant, on est censé être un peu plus rouvert. Mais alors, dans ces cas-là, ils vont visiter tout seuls, donc ils sont relativement peu. D'ailleurs, cet après-midi, là, j'en vois pas. Hein, que des gens qui ont rendez-vous qui viennent. Ils viennent visiter. S'ils nous disent, ben voilà, tel chien nous intéresse, ils remplissent le questionnaire. Si on a un soigneur de disponible, on met un soigneur à leur disposition. Si on n'a pas de soigneur de disponible, ils reviennent. Hein? Et puis voilà. Et puis c'est comme ça et ça marche beaucoup mieux. D'ailleurs, on a une liste de chiens qui ont été adoptés pour ce mois-ci qui est vraiment impressionnante, mais qui était bien ciblée. Et vraiment, ça fait plaisir, quoi. Et on a beaucoup de chats qui sont partis parce que les gens se sont dit, si le reconfinement recommence, on ne veut pas être tout seul à la maison. Et au moins, on ne peut pas prendre de chiens, on peut prendre des chats. Donc, c'est pour nous, ça a été vraiment... Donc, le questionnaire continuera. Même si les gens... on ne peut plus adopter facilement chez vous, si. On peut adopter, mais pas à n'importe quelle condition. Et pour tout le monde s'y retrouve. Hein.
D'accord. Et sinon, en général, vous avez à peu près combien d'animaux?
Alors, on a une capacité de 100 chiens, à peu près.
Ouais,
et 110, 120 chats.
Oui. Oui.
La capacité maximum.
Et au niveau des chats, on en a énormément en famille d'accueil parce que les chatons arrivaient dans des cartons. Hein. Parce que forcément, les gens ne faisant pas stériliser leur chat, ça se reproduit. Ils ne veulent pas les tuer parce que ça ne se fait pas. Hein. Donc, ils les mettent dans des cartons, ils les déposent. Alors, en revanche, ce qui est assez étonnant, bon, il y a ceux qu'on ne verra jamais, hein, qui mourront dans leur carton, mais il y a ceux qui les déposent à des endroits publics. Et notamment à Romorantin, c'est assez étonnant, c'est à côté des poubelles, vous savez, des poubelles collectives, dans les endroits, dans les jardins publics, donc à un endroit où les gens sont quasiment sûrs qu'ils seront récupérés. Mais c'est une catastrophe, les chatons, hein, une catastrophe. Donc nous, on cherche des familles d'accueil sérieuses pour élever les chatons, les socialiser, et puis qu'on puisse les mettre directement à l'adoption sans passer par ici, quoi. Ah si, deux choses qui sont hyper importantes. C'est que nos chatons, on les met après vaccination dans une sorte de... un grand chalet, de façon à ce qu'ils soient tous ensemble. Et moi, je rêve de centre aéré pour les animaux. Et là, c'est vraiment un centre de loisirs pour chatons. Donc, ce que je voudrais, c'est que... là, on en a déjà pas mal, hein, qui sont... Hein, vous allez voir tout à l'heure. Et que les gens qui arrivent et qui veulent un chaton voient tous ces chatons jouer ensemble. D'abord parce que les chatons sont socialisés. Et en plus, c'est tellement plus sympa de voir des chatons jouer ensemble que d'aller dans un box et voir des chatons qu'attendent.
On voudrait que vous nous décriviez avec quelques mots juste l'association pour donner envie à nos auditeurs de venir ou s'ils ont envie d'adopter, de venir ici et pas à un autre endroit.
Ou
devenir bénévole.
Parce qu'on supporterait les bénévoles.
Si vous voulez être utile, si votre vie est... vous n'avez pas d'amis. Non, je plaisante, mais si vous voulez vraiment vous sentir utile et avoir une reconnaissance. Parce que quand vous promenez un chien, quand vous soignez un chien, vous en occupez. Et franchement, quand vous voyez le regard du chien que vous avez caressé, que vous avez promené, c'est pas pareil après. C'est pas pareil. Et puis, vous avez après notre reconnaissance éternelle. Hein, ça, c'est sûr, on a besoin de vous. On a besoin de bénévoles, on a besoin de dons, on a besoin de legs, on a besoin de...
On a besoin d'aide.
On a besoin d'aide, d'une manière générale.
Et puis, le refuge est quand même assez sympathique. Enfin,
oui, nous sommes sympathiques.
C'est familial. C'est un endroit qui est quand même agréable.
Vous allez le visiter.
On essaie de faire de plus en plus de choses pour le rendre encore plus, plus sympathique. On est en train de changer notre logo, on a refait les bâtiments, on essaie de remettre vraiment tout.
Ça, et alors là, j'ai un projet personnellement et je ne quitterai pas la présidence. Je te préviens, Christelle.
Je sais ce
tant que ce ne sera
tu
pas...
Tu as fait ton EHPAD pour chiens.
Voilà, je voudrais un village retraite pour chiens. Parce que d'abord, on a des vieux chiens. Moi, je ne peux pas tous les prendre. Et puis, il faut qu'on parle aussi de la fondation. Quand il y a un vieux chien que les gens adoptent, s'il a plus de 10 ans, ils ont une aide de la...
On a en fait la...
30 millions d'amis.
30 millions d'amis aident les adoptants qui prennent un chien de plus de 10
ans. C'est l'opération de doyen.
Et l'opération de doyen. Et en fait, 600 euros de frais vétérinaires sont remboursés à la personne qui prend ce chien et qui peut avoir des problèmes vétérinaires liés à l'âge ou autre, hein, ou par maladie. Donc 600 euros sont remboursés pour l'adoption.
Les factures vétérinaires arrivent à 30 millions d'amis.
Voilà, et donc en fait, la personne a un crédit de 600 euros de...
Et on arrive à faire adopter des vieux chiens parce qu'il y a des gens qui veulent, il y a des personnes âgées qui nous demandent des chiots, donc ça fait partie aussi des choses, oui mais non. Et là, moi perso, j'ai un truc, quand ils demandent un chien qu'on sait que c'est pas pour eux, je leur dis, on va le balader et je leur donne le chien. Et quand ils l'ont lâché au bout de 3 secondes, je leur dis, vous voyez ce que ça va donner en promenade, ça va être un peu compliqué. Au lieu de leur dire non, on leur montre pourquoi c'est pas possible. Hein, c'est plus simple. Et donc ce village de retraite pour chiens, c'est un pour les chiens catégorisés, et pour les vieux chiens qui ne seront pas adoptés. Et voilà. Donc,
en fait, on a des chiens catégorisés qu'on ne peut pas faire adopter facilement puisqu'il faut déjà un certificat de détention. Et qu'en plus, des chiens comme par exemple Chitane qui se trouve là...
Il est trop âgé maintenant pour être assuré.
Il est trop âgé et en fait, les assurances ne prennent plus, ne veulent plus assurer les chiens de plus de 8 ans catégorisés. Donc du coup, c'est très très compliqué de les faire adopter. Et le but, ce serait de leur faire un endroit beaucoup plus grand.
Donc, des doubles boxes, par
exemple. Qu'ils vont rester
exemple.
Certainement chez nous très longtemps. Qu'ils aient le plus d'espace possible pour finir leur vie ici, quoi.
Oui, parce que pour les chiens catégorisés, non seulement il faut passer une attestation d'aptitude à détenir un chien catégorisé, et il faut le déclarer à la mairie, il faut, y a plein de contraintes si on veut sortir le chien, museler, etc. Quand on est locataire, il faut que le propriétaire donne l'autorisation d'avoir un chien catégorisé, et c'est des chiens qui ne feront pas de mal aux humains. Hein. Bon, par contre, ce sont des chiens qui sont assez réactifs, donc vaut mieux ne pas avoir d'autres chiens, quoi. Donc les contraintes sont très très compliquées pour avoir ce genre de chien. Mais c'est des chiens qui sont... Les soigneurs les adorent, ces chiens-là. Hein. C'est pas ce genre de chien qui se retournera contre un soigneur. Hein. Il y en a d'autres, mais pas eux.
Eh ben, merci beaucoup.
Mais de rien.
Après cet entretien avec la présidente et la vice-présidente du refuge, nous avons fait le tour du propriétaire avec une soignante.
Je m'appelle Vanessa et puis voilà, je suis là en 35 heures semaine.
Combien de temps vous êtes là ?
Ah, ça fait 6 mois que je suis là en tant que soignante et j'étais bénévole avant. Je m'occupe des petits chiens essentiellement plus que des chats. Donc le matin, c'est nettoyage des chenilles, on ramasse les cacas, on nettoie l'intérieur, on nourrit les bêtes, on change l'eau. Et puis l'après-midi, on a plein de tâches différentes, que ce soit l'entretien des espaces verts, que ça soit la rééducation des chiens compliqués, les adoptions, les désinfections. Voilà, on est un peu multitâche quand on est soignant ici.
Et comment vous êtes arrivé ici, dans cette
association,
Parce que je connaissais la présidente avant. C'était une amie avant de venir ici. Et puis ça a vraiment été à ma demande et ils se sont retrouvés en manque d'effectifs pendant un moment. Donc du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvée engagée ici. Puis moi, j'avais une entreprise avant dans le monde du chien qui a dû fermer à cause du Covid. Et du coup, ben, c'est super bien tombé que je puisse arriver là.
Est-ce que vous avez une journée type de ce que vous faites tous les jours, votre quotidien, quand vous arrivez le matin ici, qu'est-ce que vous faites ?
Quand on arrive le matin ici, on se dit tous bonjour, on est content de se retrouver. Ensuite, on regarde où on est dispatché. Donc, on peut être soit à faire les box, les fourrières et les box, soit être au chat.
Ici, les chats.
Soit être au parc. Donc, voilà, c'est les chalets qui sont au fond de la SPA où c'est un peu plus grand. Donc, la journée type, c'est... Moi, je vous dis, je parle surtout pour moi qui fais beaucoup plus les chiens que les chats. Donc, ça va être libérer chaque chien pendant qu'il est libre, ramasser les cacas, nettoyer l'intérieur de... son habitat, secouer ses couvertures, les changer si nécessaire, changer l'eau tous les jours, nettoyer les gamelles, le nourrir, le rappeler, lui faire un petit peu de câlinothérapie et puis on passe au chien suivant. Et puis l'après-midi, ça va être recevoir les visites, faire les adoptions, je vous dis, l'entretien des espaces verts, réparer des boxes qui sont cassées ou pas assez sécurisées, aller chez le vétérinaire pour les vaccins, les stérilisations, les chiens malades. Et puis du coup, la journée passe vite, quoi. On est vite au bout de la journée.
Et est-ce que vous avez des soins récurrents sur les chiens ?
Oui, alors oui, on peut. Alors on a deux personnes qui sont vraiment... qui s'occupent vraiment que des soins. Donc ça va être les gamelles spéciales, donc des chiens qui ont un régime particulier. Ça va être, nous, on va nettoyer les yeux qui coulent de certains chiens. On va faire les cures de certains chiens qui sont un peu plus chauds et que les soigneurs ne feront pas par sécurité. Oui, on va faire les soins, on va faire les bandages. Si les chiens ont besoin de soins, on a une équipe qui est faite pour ça et qui va éventuellement demander de l'aide aux soigneurs si c'est un peu chaud, si c'est un peu compliqué, si le chien a un peu du mal à être manipulé. Donc ça, c'est les box.
D'accord.
Et puis ça, c'est les parcs.
C'est quoi la différence entre les deux?
C'est qu'eux, ils ont un extérieur différent du leur, vous venez voir. C'est vraiment... Ils ont un petit jardin, ceux-là.
D'accord, ok. Mais pourquoi ceux-là, ils n'ont pas de jardin par rapport à eux?
Alors, on va privilégier en parc les chiens plus grands, plus nerveux, qui ont besoin de plus d'espace. Ça va être voilà, un peu stratégique. Là, on est un peu plein. Mais un chien qui a besoin de beaucoup bouger, qui est très jeune, qui est grand, va être plus vite mis en parc qu'un petit chien qui, en boxe, voilà, le vivra moins mal, on va dire. Alors qu'on a certains grands chiens, on en a deux là. Il y en a un qui est debout sur sa grille, Arthur, et à côté Tessie. Eux sont mieux là. Au fait, si on les met en parc, comme ce sont des chiens très craintifs, plus l'espace va être réduit, plus ils vont se sentir à l'aise. Plus l'espace va être grand, plus ça va être compliqué pour eux de gérer.
En fait, c'est vraiment comprendre le chien et essayer de trouver ce qui lui convient le mieux.
Exactement, comprendre le chien, essayer de trouver ce qui lui convient le mieux, quelle famille va lui convenir le mieux aussi, et puis apprendre à les connaître, quoi. Voilà, on doit pouvoir placer les chiens en toute sécurité. Alors, c'est jamais du 100%, hein, on travaille avec du vivant. Mais là, ça va être toujours privilégier la sécurité et des gens et du chien. On sait qu'on a des chiens qui partiront jamais parce que voilà, trop difficile à placer, trop de conséquences si on les place. Et puis c'est vraiment une histoire d'amour entre eux et nous, quoi. C'est vraiment ça. On les aime tous.
Et vous arrivez, vous connaissez quasiment tous les chiens qui sont ici?
Ah, pas quasiment. Je connais tous les chiens qui sont là. Oui. Alors on en a un qui est arrivé hier par exemple, donc mais on a relativement vite le premier aperçu du chien. Après on peut avoir des petites surprises qui se développent sur une ou deux semaines une fois que le chien prend ses aises, mais ça va assez vite quand même d'avoir le caractère général, on va dire, du chien. Pour les petits détails, forcément ça vient avec le temps.
Comment savez-vous que un chien est fait plutôt pour telle personne qu'un autre?
Par rapport à son tempérament et à la demande des gens. Donc les gens vont remplir déjà un questionnaire avant de venir ici. Donc on sait déjà s'ils sont en appartement, en maison, s'ils ont un jardin, combien de temps ils vont pouvoir accorder au chien, quel tempérament ils cherchent, quelle taille, quel âge. Donc on a déjà une présélection qui est faite. Et puis après, il faut aussi laisser parler le... On va passer par là, laisser passer le cœur et puis le feeling, quoi. On avait récemment, on a eu une adoption aujourd'hui d'une petite chienne noire qui s'appelle Shelly. La dame à la base n'est pas du tout venue pour elle. Elle était venue pour une autre chienne bien plus speed, bien plus jeune. Et ça a été vraiment, elle est passée devant et elle me l'a dit, quoi. Elle m'a touchée au fond de moi. Donc il y a aussi cette part-là, on laisse un peu faire la magie. Après, on va être très exigeant sur certaines choses. Par exemple, un chien qui a déjà mordu partira jamais dans une famille où il y a des enfants. Voilà, après je vous dis, il y a une présélection qui est faite et puis il y a la magie du coup de foudre, quoi.
Et qu'est-ce que vous préférez faire?
Moi?
Oui, dans votre journée.
Ah, j'aime bien le matin parce que je les vois tous. J'ai quelques minutes avec chaque, donc je pense que ce que je préfère, c'est nettoyer leur chenil, les voir courir, les voir venir chercher le contact, voilà. Puis alors quand on était en période de confinement, c'était vraiment fermé au public. Donc toutes les après-midi, on pouvait ressortir encore une fois tous les chiens. Donc ça, c'était juste génial, on passait l'après-midi avec eux. Et puis, alors ce que j'aime par-dessus tout, c'est voir évoluer les chiens compliqués. Voilà, travailler avec eux, voir l'évolution, ça c'est vraiment des super victoires. Ou quand on a des cas de chiens très maltraités qui arrivent dans un état lamentable, les voir grossir... prendre plaisir à aller à vie, tout ça c'est vraiment ce qu'on préfère, en tout cas moi.
Depuis que vous êtes ici, ça fait depuis le mois de janvier ça que vous avez dit?
Avril.
Est-ce que vous avez vu des chiens qui ont évolué de avril du coup jusqu'à maintenant?
Oui, carrément, j'ai vu des chiens évoluer plus vite que ça. Des chiens qui étaient juste inapprochables quand ils sont arrivés ici et en quelques jours que, alors pas tout le monde, mais que certaines personnes pouvaient approcher et qui maintenant vont chez le vétérinaire et se font manipuler, museler, mais sans aucune réaction agressive, oui. On a un petit chien qui s'appelle Manga, qui est là, le gris et blanc là, je ne sais pas si vous le voyez.
Ah oui, il est petit.
Voilà, lui il était plutôt renfermé, plutôt pas sympa, on ne pouvait pas trop le toucher, pas trop le manipuler. Et au fait, depuis qu'on l'a basculé en parc, et qu'on lui met régulièrement des chiens avec lui parce qu'il est très sociable, donc on lui met régulièrement des chiens avec lui, c'est devenu un autre chien. Il est devenu super chouette, quoi. Donc comme quoi, il suffit d'un environnement pour changer vraiment l'état d'esprit du chien. Donc oui, on voit des évolutions tous les jours, tous les jours, tous les jours.
Pendant cette visite, nous avons rencontré une visiteuse.
Je m'appelle Valérie, j'ai 49 ans, j'ai 3 chiens et j'habite en campagne. En campagne très calme, c'est vraiment un coin super tranquille et tout. Je le pensais jusqu'à hier. Voilà, je me suis fait voler ma petite chienne devant chez moi, à côté de mon jardin.
Quelqu'un est venu et...
Il semblerait en effet, vu la distance où elle a été retrouvée, comme elle est aveugle, très malade, elle a 14 ans. Elle ne sait pas, elle ne peut pas parcourir de grandes distances, elle ne s'éloigne jamais parce qu'elle a très peur. Donc elle ne s'éloigne jamais de son concon, de mes autres chiens. Elle est rassurée, elle entend nos voix, donc elle ne s'éloigne pas. Donc en effet, c'est ce qu'on a parlé avec la directrice là, de la SPA. Il semblerait en effet que quelqu'un me l'ait volé. Et ils se sont aperçus, je pense après, de son âge, son état de santé et sa cécité. Et donc ils l'ont balancée. Voilà, elle a été retrouvée vers Chambord. Alors j'habite Fontaine-en-Sologne. Donc elle ne peut absolument pas parcourir une telle distance, c'est impossible.
Et comment vous êtes venue ici, vous l'avez retrouvée, on vous a appelé
En fait, ça s'est passé hier, je m'en rends compte à 19h, je suis en train de jardiner tout avec mon fils, on se rend compte que d'un coup la petite n'est plus là. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On cherche partout. On s'est dit, elle a peut-être été désorientée, elle a voulu tenter une balade et tout, et elle s'est désorientée elle par elle-même, et donc elle s'est perdue. Donc on prend nos vélos, on va chercher partout, on fouille jusqu'à très tard. Là, on commence à se rendre compte qu'en effet, il y a une personne mal intentionnée qui a dû passer sans qu'on l'entende et qui nous l'a appris. Donc j'appelle la gendarmerie, je leur fais part de ce qui se passe pour si jamais quelqu'un leur dit qu'ils ont trouvé une chienne. Ensuite, je déclare sur ICAD, je déclare que ma chienne est perdue, je vais sur Pet Alert, je fais tous les sites possibles. Voilà. Et puis, c'est ce matin, j'allais appeler la fourrière et la SPA. Et je reçois un message de la SPA pour me dire que ma petite vient d'arriver, qu'elle a été déposée par la mairie de Sassé et que donc, elle est ici et tout va bien pour elle.
Elle est en bonne santé, tout va bien.
Elle est en bonne santé, tout va bien, je viens de l'apercevoir là, mais la dame m'a dit non, pas tout de suite, venez, parce qu'après ils ont dû se dire, elle va plus s'intéresser à autre chose. Donc elle m'a dit, laissez-la, venez dire quelque chose, venez passer un message. Le message, il est simple. En effet, on croit toujours que, comme pour nos enfants, que c'est chez nous qu'ils sont à l'abri, dans un certain petit périmètre, et même là, ils sont en danger. Je viens de me rendre compte. Je la coucounais, je faisais toujours très attention. Peut-être des fois, je me disais, c'est trop, il faudrait que je la laisse, malgré qu'elle est aveugle. Je la laisse un petit peu plus de liberté, que j'arrête de la couver comme ça, elle a 14 ans, qu'elle profite. Et je me rends compte que j'ai bien fait. Et c'était même pas assez. C'était même pas assez, puisque hier, on me l'a volée. Et c'est en effet son état de santé, sa cécité qui a fait que on l'a abandonnée pour que je puisse la récupérer. Sinon, je ne l'aurais jamais retrouvée. Voilà, je ne l'aurais jamais retrouvée. Donc le message, c'est il faut vraiment être vigilant. Même chez soi. Même chez soi, même dans son jardin, partout. Il ne faut pas laisser les portes ouvertes, il faut tout vérifier. Même à côté, toujours surveiller. Comme un enfant, peut-être même pire qu'un enfant. Plus facile de voler un chien qu'un enfant. Il faut vraiment être très, très vigilant. Donc aujourd'hui, j'ai encore pris une leçon. Vous voyez, comme quoi on en prend à tous les âges. Il n'y a pas besoin d'être jeune. Voilà, je vais avoir 50 ans et j'ai pris une bonne leçon, une bonne claque dans la figure, à savoir que je dois faire attention à ma petite, même dans une petite maison toute calme, dans un village calme, où il ne se passe rien. Eh bien, si, il peut se passer quelque chose, on peut se faire voler son chien, et à côté de chez soi. Donc être très vigilant.
Ensuite, juste avant de partir, nous avons pu parler à une bénévole.
Je m'appelle Gervais, Mireille. Je travaillais dans les transports urbains de Blois. Et je suis à la retraite depuis un peu plus d'un an. Donc j'essaie de venir une fois par semaine sortir les chiens. Parce qu'on habite avec mon ami que vous allez interviewer là. On habite assez loin, donc on vient à deux et on peut venir qu'une fois par semaine.
Comment vous êtes dit, on va aller promener les chiens pendant notre temps libre?
Moi j'adore les chiens. Et puis il y a 12 ans, j'avais déjà pris un petit chien ici, que j'ai encore, une petite chienne qui s'appelle Dawn. Et du coup, bon, j'avais envie de revenir donner un peu de mon temps, quoi, parce que quand on voit tous ces chiens là qui sont toute la journée enfermés, ça leur fait du bien d'aller marcher un peu, d'avoir un peu d'affection, quoi.
Vous avez un parcours de balade précis ou...
Oui, là ici on a un parcours assez précis parce que il y a les vignes, c'est pas très très sain, donc on a un petit parcours précis ici, oui. Il faut sortir tout le monde, donc on n'est pas trop longtemps non plus.
Et vous restez combien de temps à peu près à l'association ?
Par chien ?
Oui, combien de temps à peu près ?
Un bon quart d'heure, 20 minutes, temps de faire le tour, s'il a envie de marcher.
Et vous prenez toujours les mêmes chiens ou vous changez un peu ?
Évidemment, nous on essaie de prendre déjà les petits parce que les gros, c'est mieux à deux parce que ça tire beaucoup. Et du coup, on a nos petits chiens quoi, préférés, mais on demande qu'une chose, c'est qu'ils s'en aillent, hein, qu'ils trouvent des familles, bien sûr.
Et pour finir, nous avons pu avoir un aperçu du travail d'une salariée.
Alors, je m'appelle Ophélie, je suis salariée depuis ici à peu près 2 ans et j'étais bénévole avant ça.
Et comment vous êtes devenue salariée dans cette association ?
Alors d'abord j'ai commencé en tant que bénévole, donc au début je venais les après-midi et puis après je venais le matin, ensuite toute la journée. Et donc ça m'a plu et c'est mon copain qui m'a dit « Allez, vas-y, lance-toi, dépose un CV, on sait jamais. » Et en fait, pile au bon moment. Franchement, bon timing, je le remercie fortement. Mais donc il cherchait quelqu'un et donc j'ai commencé directement ici. Et donc depuis, je suis là.
À quoi ressemble votre quotidien ?
Eh bien, il n'est pas pareil. Ça change tous les jours, donc ça c'est bien. Bon, on a quand même beaucoup de mauvaises nouvelles. Hein. Quand on a des chiens qui arrivent en piteux état, ça fait mal au cœur. Là, récemment, on a eu un chien qu'on a appelé Oracle, qui est arrivé dans un état de maigreur extrême. Donc, il se jette sur la nourriture. Enfin, franchement, ça fait mal au cœur à voir. Mais il y a des fois, les chiens arrivent, ils sont super mignons. Donc là, on se demande comment ça se fait que déjà, ils ne soient pas réclamés. Parce qu'ils restent ici, mais ils restent les 10 jours de fourrière. Après, ils passent à notre nom. Donc là, c'est aussi difficile, parce qu'on se dit, bon, ils arrivent dans un bon état, bien entretenus, ils sont pas gros, les griffes impeccables, et pourtant, ils sont pas réclamés. Donc ça, c'est triste.
Et vous faites quoi dans cette association ? Vous occupez des animaux ? Qu'est-ce que vous faites ?
Alors moi, je suis partout. Je suis polyvalente. Donc je suis sur le terrain, donc je nettoie les box, je leur donne à manger, mais je fais aussi les soins. Et je fais aussi un peu de bureau. Je suis partout.
Mais est-ce que vous avez du coup une formation pour faire ce que vous faites ?
Moi, j'en ai pas.
Vous avez tout appris sur le terrain. Vu que vous étiez bénévole avant, ça a été facile.
C'est ça. Puis avec mes collègues, on en apprend tous les jours. Donc comme on a une comportementaliste, on va apprendre aussi d'elle. On apprend aussi des personnes qui sont là depuis très longtemps. Donc c'est génial.
Et là, vous veniez dire qu'il y avait quelqu'un qui vous avait appelé pour un cas un peu plus triste, du coup.
Un cas de maltraitance sur un chien qui est parti à l'adoption il y a un mois à peu près, à tout casser. Donc c'est une voisine qui a appelé pour nous dire qu'elle entendait le chien pleurer, que le chien vivait entouré de cafards, dans un endroit insalubre.
Ça vous arrive souvent d'avoir des appels comme ça pour dénoncer de la maltraitance ou...
Très souvent, oui. Alors par mail, appel... on a des fois la gendarmerie qui nous contacte, la mairie, il y en a beaucoup, beaucoup trop.
Et les appels, ils sont anonymes ou ils vous disent leur prénom ?
Ils vont nous dire leur prénom, où est-ce qu'ils se trouvent, tout ça, mais ils vont nous dire de pas forcément les citer. Donc là, c'est encore plus compliqué parce que le dossier, va falloir le monter sans ces personnes-là qui, elles, sont là tous les jours et qui voient justement le malheur. Hein.
D'accord. Eh ben, c'est bon. Oui, c'est d'autres questions. Si, est-ce que vous pourriez décrire l'association avec quelques mots pour donner envie à nos auditeurs de venir ou d'être bénévoles ou ce que ça représente pour vous ?
Ça représente tout. Moi, les animaux, c'est toute ma vie. Non, je vous conseille de venir nous voir au moins pour voir un peu nos locaux, voir comment ils sont. Et surtout, vous montrer que même nos chiens les plus compliqués et pas adoptables, ils restent chez nous. Ils ne sont pas euthanasiés, on n'a pas l'euthanasie facile. Ça, c'est hors de question. On euthanasie que quand le chien est très très chaud, c'est-à-dire qu'il nous attaque sans raison. Donc là où le chien ne peut rien faire et qu'il n'y a pas du tout de traitement derrière, donc ça veut dire que c'est vraiment le comportement du chien à cause du maître, parce que ce n'est pas le chien qui est méchant, c'est le maître qui l'a rendu comme ça. Ou alors quand malheureusement les maladies l'emportent. Donc ça, c'est, attention, c'est toujours très triste, très très triste. Mais au moins, oui, vous montrez qu'on s'en occupe bien, qu'on n'est pas mauvais ou autre, enfin, parce qu'il y a l'image un peu de la SPA ou même des refuges qui ne sont vraiment pas bonnes, même encore en ce moment. Donc au moins qu'ils viennent voir. Comme ça, on pourra leur montrer qu'on aime nos loulous et qu'on est prêt à tout pour eux.
Avant de clôturer cette émission, nous voulions remercier tout le refuge de Sassé et en particulier toutes les personnes que vous venez d'écouter pour leur accueil, leur sourire et leur gentillesse.
Alors merci à tous les anges gardiens de protéger nos amis les animaux. Cette émission vous a été présentée par Clara et Julien. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et on se retrouve le mois prochain, tout en rose. Bonne journée!
Bye!